Vous êtes sur RTL.
Eh bien, c'est à vous, Marc-Olivier.
Merci Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, Pierre Palmade en garde à vue. L'humoriste et un autre jeune homme sont interrogés depuis ce matin par les policiers dans une enquête pour viol et violence. À l'origine, c'est Pierre Palmade qui a appelé les policiers après la mise à sac de son appartement par un jeune homme qui avait passé la nuit dernière avec lui. Ce dernier justifie ses dégradations en expliquant avoir été violé par le comédien. Les deux hommes vont être confrontés par les enquêteurs. Alors dans RTL Soir, on va revenir en détail sur cette affaire dans laquelle, donc vous l'avez compris, deux versions s'affrontent avec de nombreuses zones d'ombre. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Cette année de Planck et aujourd'hui finalement le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été arrêté à l'ambassade d'Équateur de Londres. Les États-Unis réclament son extradition pour piratage informatique. En Suède, il est accusé de viol. Dans un instant, récit complet de cette arrestation épique et retour sur une personnalité très controversée. Le PR de Flamanville, ce projet qui n'en finit pas. Les experts du nucléaire estiment qu'il faut des réparations sur les soudures du réacteur. Le chantier a déjà 8 ans de retard. Les cambriolages en progression depuis novembre dernier, c'est l'effet gilet jaune, dit l'intérieur. À suivre également la première greffe d'utérus en France, la patiente a bénéficié d'un don de sa propre mère. Et puis Benoît XVI qui sort de sa réserve avec une lettre troublante qui relie la pédophilie dans l'église à mai 68. La bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,66% à 5 485 points. Les courses à Auteuil, il fallait jouer le 8, le 7, le 9, le 15 et le 11.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, l'Union européenne donne 6 mois de rab au Royaume-Uni pour réussir son Brexit. Les Britanniques pourraient donc voter pour les élections européennes. Mais une fois partis, que vont faire leurs eurodéputés? Comment vont-ils être remplacés? Toujours à propos de ce report, le premier invité d'RTL Soir à 18h20 sera l'ambassadeur du Royaume-Uni en France, Lord Edward Lowlin. Puis direction les coulisses de l'actualité, attention au vertige. Aujourd'hui étaient retirées 16 statues de la flèche de Notre-Dame de Paris pour restauration. On vous emmène en coulisses à près de 100 mètres de hauteur. Alain Duhamel, ce soir 18h30, l'impossible campagne des élections européennes. 18h35, l'incroyable aventure de Loïc Blaise, la sclérose en plaques dont il souffre, n'a pas réussi à le clouer au sol. Après avoir réalisé un tour du monde par le cercle arctique, il se lance dans une nouvelle aventure, expédition de l'extrême, avec un hydravion à l'hydrogène. 19h15, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Du soleil pour demain, mais avec des températures en baisse.
Beaucoup de soleil demain sur la plupart des régions. Ce sera quand même assez gris en début de journée au sud de la Garonne, avec encore quelques averses. Les éclaircies reviendront dans l'après-midi. Et puis le temps restera encore assez nuageux entre les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, avec encore de l'instabilité, donc des averses tout au long de la journée. Et ces averses seront localement fortes, parfois orageuses avec de la grêle sur l'île de Beauté. Les températures fraîches demain matin, encore quelques gelées, moins 2 degrés à Mulhouse, 2 à Limoges, 4 à Paris, 11 à Perpignan. Température qui baisse demain après-midi, on sera en dessous des normales, avec 10 degrés à Lille, 12 à Reims, 13 à Paris et un maximum de 20 degrés à Béziers.
À tout à l'heure, Patricia Charbonnier.
RTL Soir.
Et Pierre Palmade est donc en garde à vue depuis ce matin, Isabelle, dans une affaire encore bien mystérieuse.
L'humoriste n'est pas seul, un autre homme est en garde à vue avec lui. Une enquête de flagrance a été ouverte pour viol et violence sous l'emprise de stupéfiants. Bonsoir Jean-Alphonse Richard.
Bonsoir.
Alors il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire, tout part d'une soirée assez trouble.
Ah oui, c'était la nuit dernière. Pierre Palmade vient alors de faire la connaissance de ce jeune homme prénommé Abdelhakim, 19 ans. Tous deux se retrouvent tout d'abord dans une boîte de nuit de la capitale. Ils consomment beaucoup d'alcool, puis direction l'appartement de l'humoriste dans un immeuble du 3e arrondissement. La drogue, de la cocaïne, est consommée en grande quantité. La suite reste beaucoup plus trouble, fait d'ailleurs l'objet de toutes les questions posées en ce moment même aux deux hommes par la police judiciaire. Deux versions divergent. Pierre Palmade explique que Abdelhakim est rapidement devenu violent, l'aurait menacé, frappé, puis aurait brisé du mobilier ainsi que des objets de décoration, laissant l'appartement dévasté. Le comédien dit avoir eu peur et a ainsi appelé la police. À l'arrivée des gardiens de la paix, Abdelhakim a indiqué que c'est lui qui venait d'être victime de violence et avait même été violé par Pierre Palmade, relation forcée que dément l'humoriste. Le climat dans lequel s'est déroulée cette soirée, drogue et alcool, fragilise ces témoignages. Garde à vue toujours en cours et qui peut théoriquement se poursuivre jusqu'à samedi matin.
Merci Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL. Il a tenu 2487 jours, soit un peu plus de 7 ans donc. Julian Assange a finalement été arrêté aujourd'hui à Londres.
Arrêté dans l'ambassade d'Équateur où il s'était réfugié depuis 2012 pour échapper à des accusations de viol. Un changement de pouvoir en Équateur a mis fin à sa protection. Le fondateur de Wikileaks fait aussi l'objet d'une demande d'extradition de la part des États-Unis pour avoir révélé des tonnes d'informations confidentielles. Marie Billon, vous êtes la correspondante d'RTL à Londres, bonsoir. Il a eu droit, Julian Assange, à une arrestation très théâtrale.
Et oui, c'était vers 9h15, heure locale, que les policiers britanniques sont entrés dans l'ambassade en accord avec l'Équateur. Selon un témoin racontant la scène, Julian Assange aurait immédiatement tenté de s'enfuir dans sa pièce privée. Les forces de l'ordre ont eu du mal à le maîtriser et à le menotter, appelant plusieurs collègues postés à l'extérieur en renfort. Une heure plus tard, 7 agents ont finalement soulevé le fondateur de Wikileaks pour le porter jusqu'à la fourgonnette garée dans la rue. Julian Assange criait et s'accrochait ostensiblement à un livre sur l'histoire de la sécurité nationale. Jaroslav, un supporter de longue date, arrivé peu de temps après est choqué.
Il était l'ombre de lui-même avec sa longue barbe et ses cheveux qui ont viré au gris. Il m'a fait penser à ces gourous indiens qui jeûnent pendant des mois pour mieux méditer. En fait, il avait l'air d'une victime du système.
Après ça, Julian Assange a été conduit dans un commissariat local avant, en début d'après-midi, d'être mené devant un juge du tribunal de Westminster. Il a été reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire, un délit passible d'un an de prison. Il est ce soir derrière les barreaux. Il doit comparaître à nouveau le 2 mai prochain lors d'une audience concernant la demande d'extradition américaine.
Merci Marie Billon à Londres pour RTL.
Alors ces dernières années, on l'a compris, Assange s'était fait tout petit, mais avant cela, il avait beaucoup fait parler de lui. Rafraîchissez-nous la mémoire, Brice Dugény. Qui est cet homme qui déchaîne les passions?
Bien d'abord, Assange, c'est Wikileaks. Ces deux noms sont indissociables dans un souci de transparence internationale. Il fonde cette organisation en 2006. En fait, il veut rendre public sur Internet des documents confidentiels pour dire la vérité à l'opinion publique. Et les révélations vont se succéder. Scandale de corruption, d'espionnage au plus haut niveau des États, les écoutes téléphoniques des présidents européens par les Américains, les documents militaires classés secret défense sur la guerre en Afghanistan. Ces informations ne vont évidemment pas plaire aux pays concernés, à commencer par les États-Unis. Mais l'image du héros du début va peu à peu se dégrader, notamment avec ses prises de position politiques ou encore son rôle trouble dans la campagne présidentielle américaine. Et puis il y a la dernière facette de ce personnage, moins romanesque, accusé de viol et d'agression sexuelle par deux femmes en Suède en 2010. C'est d'ailleurs pour fuir le mandat d'arrêt international lancé par Stockholm qu'Assange décide de s'enfuir et de demander l'asile à l'Équateur, où il va donc rester 7 ans, désormais en Grande-Bretagne, en Suède et aux États-Unis. La justice veut rattraper ce temps perdu.
Brice Dugény du service étranger de RTL.
Une page se tourne au Soudan. Le président Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans, a été renversé par l'armée. Il est visé par deux mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
On y revient dans RTL Monde tout à l'heure. Les gilets jaunes font-ils flamber la délinquance? Oui, selon le ministère de l'Intérieur.
Globalement, les chiffres de la délinquance sont en baisse sur une année, mais on constate une hausse depuis novembre. C'est particulièrement vrai pour les cambriolages, en progression de 5%. Pour Christophe Castaner, il y a évidemment un lien de cause à effet.
Oui, il y a une hausse. Une chose est sûre, c'est que tous les samedis, et certains samedis, ce sont 80 000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Et puis, même si les chiffres sont moindres aujourd'hui, nous sommes extrêmement présents. Et donc, c'est simple. Quand les policiers sont obligés de sécuriser des manifestations qui hébergent des brutes et des casseurs, et quand nous sommes obligés de mobiliser autant de forces, ben, il se trouve que le lendemain, elles ne sont pas forcément sur le terrain, ou le lundi suivant, ou le mardi suivant. Alors, le travail de la police, il se fait tous les jours, même si certains font le choix de les empêcher de faire leur travail le samedi. Donc ça a des conséquences. La police, elle est là pour sécuriser les Français. Elle est là pour empêcher les cambriolages et pour attraper ceux qui cambriolent. Elle n'est hélas pas là pour passer son temps le samedi à devoir courir après des manifestants qui n'ont qu'un seul objectif, c'est au fond de les empêcher de travailler.
Christophe Castaner avec Yannick Collomb pour RTL.
La loi Pacte adoptée ce matin à l'Assemblée et avec elle la privatisation d'Aéroports de Paris, alors que les parlementaires de l'opposition ont enclenché un référendum d'initiative partagée pour empêcher l'opération.
RTL soir 18h08.
On va marquer une pause et dans un instant, la première grève d'utérus en France.
RTL soir.
RTL soir 18h10, Marc-Olivier Fogel et pour la suite du journal, Isabelle Choquet.
Et pour la première fois en France, une femme a pu bénéficier d'une grève d'utérus et cela grâce à un don de sa propre mère.
La patiente âgée de 34 ans est née sans utérus, une anomalie plutôt rare. Pour les femmes qui veulent mettre au monde un enfant malgré tout, la seule solution c'est la greffe. Bonsoir Anne Levenaf.
Bonsoir.
Concrètement, comment ça se passe?
Alors les chirurgiens ont prélevé à l'aide d'un robot l'utérus de la mère de 57 ans. C'est cela qui a pris le plus de temps avant de l'implanter à la fille. Le tout a duré 14 heures. Maintenant, il faut que la machine se remette en route et puis dans 10 mois, la jeune femme pourra bénéficier d'une implantation d'embryon congelé.
Alors, l'opération est inédite chez nous, mais il y a d'autres exemples dans le monde.
Oui, l'équipe de Foch travaille avec une équipe suédoise qui a déjà pratiqué 9 greffes d'utérus. Un 9e bébé est d'ailleurs né lundi dernier. D'autres enfants ont vu le jour aux États-Unis ou en Chine ou encore au Brésil, où là, l'utérus provenait d'une donneuse décédée. À Limoges, en France, des médecins travaillent aussi sur des prélèvements post-mortem, mais ils n'en sont pas au stade de greffer. À Suresnes, là, c'est un essai clinique. L'hôpital a le droit d'en faire 10 au total.
Reste que cela pose pas mal de questions éthiques.
Oui, comment va grandir un enfant né de l'utérus de sa grand-mère? Quels effets à long terme des traitements pour éviter le rejet du greffon? Est-ce que la mère d'une jeune femme née avec une malformation ne risque pas de se sentir obligée de faire ce don? Et puis, si l'essai marche, est-ce qu'on pourra prélever des utérus chez des femmes encore en âge de procréer qui pourraient le regretter ensuite? Et puis enfin, c'est une opération longue et risquée, alors qu'on ne sauve pas une vie, on répond à un désir d'enfant.
Merci Anne Le Hennaff. Nouveau retard en vue pour le père de Flamanville, Isabelle, qui n'en avait vraiment pas besoin d'ailleurs.
Ce gigantesque projet a déjà 8 années de retard sur le calendrier prévu, son coût a triplé et tout cela ne va pas s'arranger. Des défauts ont été constatés sur 8 soudures des tuyauteries du réacteur. EDF estime que ces anomalies ne nécessitent pas une réparation, mais ce n'est pas l'avis des experts, Virginie Garin.
Non, il faut réparer ces soudures, il s'agit de petites fissures découvertes sur la tuyauterie qui doit transporter la vapeur produite par le réacteur. Les soudures ont été mal faites. Alors EDF, cette semaine, a assuré, en faisant des calculs, qu'elles allaient tenir, qu'elles étaient assez solides. Mais les experts de l'Institut de Sûreté Nucléaire n'y croient pas. Thierry Charles est le directeur général adjoint de l'IRSN.
Le compte n'y est pas en termes de qualité. Et dans la mesure où le compte n'y est pas, ça disqualifie la démarche telle que EDF la prévoit. On doit avoir une certitude sur la qualité de réalisation et le haut niveau de confiance qu'on peut y associer. Donc l'IRSN a conclu que la démarche d'EDF de vouloir justifier par le calcul n'était pas une démarche acceptable et qu'il valait mieux réparer les fameuses soudures en question.
Alors c'est maintenant à l'autorité de sûreté nucléaire de se prononcer, elle le fera sans doute en juin. Il n'y a pas de raison qu'elle ne suive pas les experts à qui elle a demandé conseil. Et dans ce cas, de nouveaux travaux devraient avoir lieu. Il va falloir détruire une partie du bâtiment du réacteur. EDF prend acte ce soir et reconnaît que réparer risque à nouveau d'impacter le calendrier et le coût du réacteur.
Merci Virginie Garin.
Et de trois, troisième victoire judiciaire pour l'agriculteur Paul-François face à la firme Monsanto. Le géant de la chimie a été reconnu responsable de son intoxication par un désherbant. Le cultivateur estime qu'il s'agit d'un message au gouvernement actuel. Il appelle les politiques à prendre leurs responsabilités concernant l'utilisation des pesticides.
Et vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 19h. Il était en retrait depuis sa renonciation en 2013. Benoît XVI sort de sa réserve, avec une lettre pour le moins étonnant.
Le pape émérite est aujourd'hui âgé de 93 ans. On le dit déclinant depuis plusieurs mois, mais il livre là un texte de 18 pages pour dénoncer la faillite morale de la civilisation occidentale et de l'Église. À Rome pour RTL, Olivier Bonnel.
C'est un texte dense comme il les affectionnait du temps de son pontificat. Sur 18 pages, le pape émérite jette un regard sombre sur la crise qui frappe l'Église catholique et tente d'y trouver des explications. Pour Joseph Ratzinger, aucun doute, les années 60 ont provoqué une rupture et la libération sexuelle, qui ne tolère aucune norme, écrit-il, a conduit à un effondrement spirituel. Selon le diagnostic du prédécesseur du pape François, le problème de la pédophilie dans l'Église n'est devenu d'actualité que dans la seconde moitié des années 80. Benoît XVI qui évoque aussi des clubs homosexuels qui ont clairement transformé le climat des séminaires, des mots jamais entendus jusqu'ici. Pour l'ancien pape, la crise actuelle que traverse l'Église ne se résoudra que dans un amour plus grand envers Jésus-Christ, un texte au goût étrange et au ton parfois crépusculaire, dont certains propos ne manqueront pas de créer la polémique.
Merci Olivier Bonnel, donc à Rome pour RTL. On en débattra tout à l'heure dans Refait le Monde. Isabelle, vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité.